to dream of a master race. The history books, they tell of their defeats in 45. But they all came out of the woodwork on the day the Nazi died.
They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Whilst Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialise.
Bonjour à tous, bienvenue dans Patch World, en direct tous les vendredis de 16 à 17 heures sur les ondes de Radio Canu 102.2. Nous sommes le vendredi 1er avril 2016 et il y a un petit peu de pluie sur Lyon.
You better keep your hands on your guns. Cause if you're looking for troubles, you came to the right place.
Alors tout de suite et sans filet, les petites annonces qu'on m'envoie par texto. C'est Cécile qui me dit jeudi 7 avril, je te donne les infos, donc jeudi 7 avril. Vous avez encore le temps, donc oui. C'est une annonce donc pour les ateliers terreaux à 20h. C'est 2 rue Sainte-Marie des Terreaux et c'est pour une lecture performance chorégraphique sur le texte Ostinato de Louis-René Desforêts. Les tarots, c'est 18€ et 8€ pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Voilà, si vous aimez une chorégraphie et un texte de Louis-René Desforêts. Vous aimez la chanson, c'est mercredi 6 avril, donc juste la veille. Vous pouvez aussi aller à une soirée chanson de l'ENM qui sera à tout bout de champ. On en a déjà parlé plusieurs fois, donc c'est dans les pentes de la Croix-Rousse. C'est un lieu réservé à la chanson française. Et ça, c'est les étudiants du département chanson de l'École nationale de musique de Villeurbanne qui investissent à tout bout de champ. Le temps d'une soirée, c'est entrée libre. Il y a juste l'adhésion annuelle de 2€ puisque c'est un lieu associatif. C'est mercredi 6 avril à 20h30. Vous avez toutes les infos donc sur le site atoutboutdechamp.com. Alors, comme l'invité qui devait venir aujourd'hui, d'ailleurs je lui fais un petit coucou, c'est Jean-Luc qui a son studio à Nuage 7 et en plein débordement, c'est-à-dire qu'il a pris du retard sur ses enregistrements studio. Donc, il viendra bientôt, c'est promis. Je referai une première présentation. On va vous parler de synthétiseurs analogiques bientôt. En attendant, bah, du coup, j'en profite pour vous faire découvrir les CD qu'on a reçus il y a quelques temps à Radio Canu. Et là, je crois que c'est Nico Gamet. C'est parti, si ça veut bien se lancer. C'est Nico Gamet qui nous a envoyé ce CD Living Tomorrow. Eh bien, je propose qu'on écoute le deuxième morceau. Celui-ci s'appelait Living Tomorrow et puis le deuxième s'appelle Stronger. Ça a été fait à l'Hacienda Studio, hein. Il me semble que c'est dans les environs. Et donc, ça doit être fait en famille, hein, parce que je vois Gigamet, Nico Gamet. S'appelle Oop, on l'a reçu à la radio donc ces derniers jours, et donc c'est Sir Jean et NMB Afrobeat Experience, et le titre c'est Permanent War. Le titre de ce morceau s'appelle Oop, c'est le dernier morceau de l'album Oop. Ça a été enregistré donc en 2015.
Huge. I can nearly drown. Everyone is gone, and I'm walking all alone, lost in the woods and wet till my bones. I thought of what my mother said, don't look back, you need no one's aid. Just before that ugly cat grabbed me, remember carrying that huge sesame. Threw me away, and I float with the wind. My goose flew away, and I crashed on my chin. Say, don't look back, you need no one's aid. I thought of what my mother said, don't look back, you need no one's aid. Stand up, Billet, you're stronger than all the plants. Just let those fears go away, fears go away. Let those fears go away. An ant of this planet Earth should be working till he dies, but for once all he can think is her eyes. So he starts to run fast with his six legs, and will carry on till the sun completely fades. I thought of what my mother said, don't look back, you need no one's aid. Than all the plants, just let those fears go away, fears go away.
Donc c'est l'album de Fake qui vient de sortir, Fake F-A-I-K, et c'est Char Mountains, et on écoutait le premier morceau, Stand Up Little Ant.
La vieille sagesse endormie s'est fait sonner d'une petite claque aux oreilles juste pour l'assourdir. Elle a préféré ça plutôt que de crever. Rien à voir, rien à dire, rien entendre et sourire. Des mémoires qu'ont perdu la centrale. Plonge au milieu des fausses données, plus un vent ne veut les contredire. Dans la poussée de leurs idées,
CD qui est encore arrivé sur la boîte aux lettres de Radio Canus, ça s'appelle Cantos et le titre c'est El Loco.
Alors quoi dire, quoi faire à tous les assoiffés quand Babylone baisse.
S'appelle Good Boy et le groupe c'est Diphase. Je remercie Jean-Charles pour m'avoir fait une compile entière de plein de morceaux. Donc ça c'est le premier titre que vous découvrez d'une longue compile qui comprend une centaine de morceaux. Donc bien sûr je ne vous les passerai pas tous aujourd'hui, mais ça c'est le premier. Coucou et merci à Jean-Charles. parler du livre que j'ai abordé la semaine dernière, c'est Brian Greene, L'univers élégant. Une révolution scientifique de l'infiniment grand à l'infiniment petit, l'unification de toutes les théories de la physique, traduit de l'américain par Céline Laroche et la préface de Trinh Xuan Thuan que je vous ai lue la semaine dernière. Donc, pour vous parler de la théorie des cordes. Et aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait du début du livre qui parle de l'univers à la loupe et que sait-on de la matière. Les philosophes de la Grèce antique concevaient l'univers comme constitué de petits éléments insécables, qu'ils baptisèrent atomes. Les objets matériels résultaient alors de l'agencement d'un petit nombre de ces briques élémentaires, un peu comme les mots d'un langage alphabétique, combinaison de quelques lettres seulement. Ils avaient deviné juste, plus de 2000 ans plus tard, nous sommes toujours convaincus de la validité de cette hypothèse, bien que la nature des briques élémentaires ait beaucoup évolué. Les chercheurs du XIXe siècle mirent en évidence des constituants communs à diverses substances, telles que l'oxygène ou le carbone. Ils choisirent de les appeler des atomes, suivant la tradition grecque. Le nom est resté, bien qu'il ne soit plus approprié, puisque l'histoire a montré que ces atomes sont parfaitement sécables. Au début des années 30, des chercheurs tels que Joseph John Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr et James Chadwick mirent au point un modèle atomique, le modèle planétaire. Maintenant familier à la plupart d'entre nous. Il ne décrit pas l'atome comme le constituant élémentaire de la matière, mais comme un noyau fait de protons et de neutrons entouré d'une nuée d'électrons en orbite. Beaucoup de physiciens restèrent longtemps persuadés que protons, neutrons et électrons étaient les atomes des Grecs. En 1968, des expériences à l'accélérateur linéaire de Stanford aux États-Unis révélèrent que protons et neutrons ne sont pas élémentaires, mais sont eux aussi constitués de particules plus petites, les quarks. Ce nom fantaisiste issu de l'œuvre de James Joyce, Finnegan's Walk, leur a été attribué par Murray Gell-Mann, le premier à avoir présumé leur existence. Les expérimentateurs confirmèrent l'existence de deux variétés de quarks, les quarks U et D. Deux quarks U et un quark D font un proton, deux quarks D et un quark U forment un neutron. Tout l'univers connu terrestre ou céleste procéderait ainsi de l'association d'électrons, de quarks U et de quarks D. Aucun fait expérimental n'indique que ces particules puissent ne pas être élémentaires, mais un grand nombre de résultats signalent l'existence d'autres particules insécables. Dans les années 50, les expériences de Frederick Rehn et Clyde Cowan mirent en évidence une nouvelle particule, le neutrino, dont l'existence avait été prédite par Wolfgang Pauli dans les années 30. Les neutrinos ont été très difficiles à voir. En effet, ce sont des particules fantomatiques qui n'interagissent que très peu avec la matière. Un neutrino d'énergie moyenne peut traverser une épaisseur de plomb de plusieurs milliers de kilomètres sans que son mouvement en soit modifié le moins du monde. Et cela devrait vous rassurer car le temps de lire ces lignes, vous aurez été bombardé par des millions de neutrinos venant du Soleil qui vous auront traversé avant de parcourir la Terre de part en part et de poursuivre leur course dans l'espace. Une autre particule, le muon, fut découverte vers la fin des années 30 par des expérimentateurs qui étudiaient les rayons cosmiques, des jets de particules venus de l'espace qui bombardent perpétuellement la Terre. Le muon est très semblable à l'électron, à ceci près qu'il est 200 fois plus lourd. Rien dans l'ordre cosmique, aucune énigme irrésolue, aucune faille, rien ne laissait présager l'existence du muon, à ce point que le physicien des particules, Isaac Isidore Rabi, a cueilli cette découverte sans enthousiasme. Qui a commandé ce truc-là ? Néanmoins, le muon était bien là, et nous n'étions pas au bout de nos surprises. Grâce à une technologie de plus en plus performante, les chercheurs continuèrent de bombarder des paquets de matière avec des énergies toujours plus élevées, recréant ainsi temporairement des conditions qui ne s'étaient pas renouvelées depuis le Big Bang. Ils fouillaient les débris toujours plus petits à la recherche de nouveaux ingrédients qui pourraient s'ajouter à la liste croissante des particules élémentaires. C'est ainsi qu'ils découvrirent quatre autres quarks, les quarks C, S, B et T. Un deuxième cousin de l'électron, la particule tau. TAU, encore plus lourde que le muon et d'autres particules semblables aux neutrinos, que l'on appelle neutrino mu et neutrino tau. Pour les distinguer du premier, le neutrino de l'électron, neutrino E ou neutrino électronique, toutes ces particules produites lors de collisions à hautes énergies sont très éphémères et ne font pas partie des constituants de la matière du monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas encore tout à fait à la fin de la liste, puisque à chaque particule est associée une antiparticule qui possède la même masse, mais dont certaines caractéristiques sont opposées, comme la charge électrique ou encore les charges correspondant aux autres forces que nous présenterons sous peu. Par exemple, le partenaire antimatériel de l'électron s'appelle le positron. Sa masse est rigoureusement la même que celle de son homologue matériel, mais sa charge électrique vaut plus 1 au lieu de moins 1 pour l'électron. Lorsque la matière rencontre l'antimatière, elle s'annihile pour ne donner que de l'énergie. C'est pour cette raison, bien sûr, que l'on ne trouve qu'extrêmement peu d'antimatière autour de nous. Les chercheurs découvrirent un certain schéma parmi ces particules. Les constituants de la matière s'organisent en trois groupes, souvent qualifiés de familles, qui rassemblent la table 1.1. Chaque famille contient deux quarks, un électron ou l'un de ses cousins, et leurs neutrinos associés. Les propriétés de ces particules sont identiques d'une famille à l'autre, à l'exception de leur masse, de plus en plus élevée, de la première à la troisième famille. Les chercheurs ont sondé la matière en deçà du milliardème de mètres. Et finalement, tout ce qu'ils ont rencontré, qu'ils soient naturels ou produits artificiellement dans leurs énormes désintégrateurs d'atomes, absolument tout résulte uniquement de l'agencement des quelques particules de ces trois familles et de leurs antiparticules. toujours sur les ondes de Radio Canus en 2.2 dans l'émission Patch World tous les vendredis de 16 à 17h. Vous écoutez le morceau qui s'appelle Badra et c'est de Anwar Brahem. C'est un extrait donc de ce morceau qui dure en totalité 8 minutes 30. J'étais en train de vous parler de Brian Greene et qui nous parle de l'univers élégant et qui nous initie à la théorie des cordes en parlant finalement de l'histoire, de l'évolution des théories scientifiques qui ont amené vers cette théorie. Au regard de la table 1.1, on comprend mieux la perplexité de Rabi face à la découverte du muon. La disposition en famille semble bien organisée mais soulève quantité d'interrogations. Il semblerait que l'essentiel de ce qui nous environne soit uniquement constitué d'électrons, de quarks U et de quarks D. Alors pourquoi tant de particules élémentaires? Pourquoi trois familles plutôt qu'une? Et pourquoi pas quatre familles ou n'importe quel autre nombre? Pourquoi les masses des particules ont-elles ainsi l'air d'avoir été attribuées au hasard? Par exemple, pourquoi le taux est-il 3520 fois plus lourd que l'électron? Pourquoi le quark T est-il 40200 fois plus lourd que son homologue U? Voilà de drôles de nombres apparemment aléatoires. Sont-ils le fruit du hasard, d'une volonté divine, ou existe-t-il une explication scientifique à ces caractéristiques fondamentales de notre univers? Des forces ou de la nature du photon? Les choses se compliquent dès que les forces de la nature entrent dans la danse. Autour de nous, tout est lié à l'exercice d'une influence. Les raquettes frappent les balles, les sauteurs à l'élastique se jettent du haut des ponts. De gros aimants maintiennent les trains à grande vitesse sur leur rail. Des compteurs GGR émettent un signal à la moindre trace de radioactivité. Des bombes nucléaires explosent et nous-mêmes pouvons influer sur les objets en les poussant, en les tirant, en les secouant, en les lançant les uns contre les autres, en les étirant, en les tordant, en les écrabouillant, en les congelant, en les chauffant, en les brûlant. Au cours du XXe siècle, les chercheurs ont compris que les milliers d'interactions observées au quotidien se réduisent aux combinaisons de quatre forces fondamentales. L'une d'elles est la force gravitationnelle, les trois autres sont la force électromagnétique, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. La gravitation est la plus familière des quatre forces, c'est elle qui maintient la Terre en orbite autour du Soleil. C'est grâce à elle que nous gardons les pieds bien ancrés au sol. La masse d'un objet mesure la force gravitationnelle qu'il peut exercer, ainsi que celle qu'il peut subir. La force électromagnétique nous est bien connue, elle aussi. Elle sous-tend toutes les commodités du monde moderne, électricité, télévision, téléphone, informatique, mais aussi la puissance impressionnante des éclairs d'un orage, ou même la douceur du contact humain. À l'échelle microscopique, la charge électrique d'une particule est à la force électromagnétique ce que sa masse est à la force gravitationnelle. Elle mesure l'intensité de la force électromagnétique qu'une particule peut exercer, ou l'intensité de sa réponse à cette force. Les forces nucléaires faibles et fortes sont moins familières, tout simplement parce qu'elles s'atténuent très vite, sur des distances subatomiques. Pour cette raison, les physiciens n'ont découvert ces deux forces que très récemment. Grâce à la force forte, les quarks restent englués à l'intérieur des nucléons, protons et neutrons, qui eux-mêmes restent confinés à l'intérieur du noyau atomique. La force faible, quant à elle, est responsable de la désintégration radioactive de certains éléments comme l'uranium, le cobalt. Deux points communs à toutes ces forces ont été découverts au cours du XXe siècle. Le premier, qui sera détaillé dans le chapitre 5, est que chacune des quatre forces correspond au niveau microscopique un certain type de particules que l'on peut concevoir comme les plus petits paquets de la force qui leur est associée. Dans un faisceau laser qui est un rayon électromagnétique, déferle des photons, les plus petits morceaux d'interaction électromagnétique. Il en va de même des forces faibles et fortes dont les paquets élémentaires sont respectivement les bosons faibles et les gluons. Le mot gluon est plutôt imagé. Les gluons peuvent s'interpréter comme les constituants microscopiques de la glu qui assure la cohésion des noyaux atomiques. Dès 1984, les expérimentateurs avaient établi l'existence et les propriétés de ces trois types de particules d'interaction. Là, il y a un autre tableau à voir avec les forces de chaque... Pour chaque force, donc nucléaire forte, électromagnétique, nucléaire faible et gravitationnelle et leur masse. Quant aux gravitons, particules d'interaction associées à la gravitation, malgré l'absence de confirmation expérimentale, les physiciens sont quasiment convaincus de leur existence. Le second point commun à toutes les forces concerne les charges. La masse d'une particule mesure l'effet qu'aura sur elle la gravitation, La charge électrique dicte l'influence qu'aura la force électromagnétique. De la même manière, toute particule porte une charge forte et une charge faible qui mesurent respectivement l'influence des forces fortes et faibles. Le tableau donné dans les notes de ce chapitre 1 résume toutes ces propriétés des particules élémentaires. Charge et masse ont fait l'objet de mesures très précises, mais malheureusement, nous n'avons toujours pas de réponse à la question « Pourquoi notre univers est-il constitué de ces particules-ci qui portent ces masses et ces charges-là » Malgré l'émergence de points communs, l'examen des quatre forces fondamentales ne fait que susciter de nouvelles interrogations. Tout d'abord, pourquoi existe-t-il quatre forces ? Pourquoi pas cinq, trois, voire une seule force ? Pourquoi ces forces présentent-elles des propriétés si différentes ? Pourquoi les forces nucléaires sont-elles condamnées à n'opérer qu'au niveau microscopique alors que les forces électromagnétiques et gravitationnelles ont une portée illimitée? Et pourquoi observe-t-on tant de différences entre les intensités intrinsèques de ces quatre forces? Pour vous faire une idée de cette différence, imaginez que vous teniez un électron dans chaque main et que vous essayiez de les rapprocher. Ces deux particules identiques sont chargées. Elles s'attirent sous l'effet de la gravitation, mais se repoussent sous l'effet de la force électromagnétique. Laquelle des deux forces l'emporte ? Les électrons vont-ils s'attirer ou se repousser ? Eh bien, c'est la répulsion qui l'emporte, et de très loin. La force électromagnétique est 1 000 000 de milliards de fois plus forte. 10 puissance 42 fois que l'attraction gravitationnelle. Si votre biceps droit représentait l'intensité de la force de gravitation, alors pour symboliser celle de la force électromagnétique, votre biceps gauche devrait s'étirer jusqu'aux confins de l'univers connu. Comment se fait-il alors que la force électromagnétique ne submerge pas la gravitation partout dans le monde qui nous entoure ? C'est que la matière est globalement neutre, composée d'autant de charges positives que de charges négatives, de sorte que les interactions électromagnétiques s'y compensent. Rien de tel pour la gravitation, puisqu'elle est toujours attractive. Ajouter de la matière, la force gravitationnelle n'en sera que plus intense. Et pourtant, la gravitation est intrinsèquement une force très faible. Cela explique que les gravitons soient très difficiles à mettre en évidence expérimentalement. Observer le plus petit paquet de la plus faible des interactions constitue un réel défi. On a pu mesurer expérimentalement que la force forte est environ 100 fois plus intense que la force électromagnétique, elle-même 1000 fois plus intense que l'interaction faible. Mais ici encore, on peut se demander pourquoi, comment justifier ces propriétés de notre univers. Il ne s'agit pas de philosopher oisivement sur l'occurrence de tel détail plutôt que de tel autre. L'univers présenterait un visage radicalement différent si l'on modifiait même très légèrement les propriétés de la matière ou des particules d'interaction. Prenons le cas des noyaux, des 100 et quelques atomes stables de la table périodique des éléments. Leur existence ne tient qu'à un fil, la valeur du rapport des intensités des forces fortes et électromagnétiques. En effet, la force électromagnétique entre les protons confinés à l'intérieur du noyau fait qu'ils se repoussent. Cette répulsion est tout juste compensée par l'attraction qu'exerce la force nucléaire forte entre les quarks qui composent les protons, de sorte que ces derniers y restent confinés. Un changement infime dans le rapport des intensités de ces deux forces, et cet équilibre délicat serait rompu. La plupart des noyaux se désintégreraient. Un autre exemple, si les électrons possédaient une masse légèrement plus élevée, ils s'associeraient alors aux protons des noyaux pour former des neutrons. Donc plus d'hydrogène, le plus simple de tous les atomes dont le noyau ne consiste qu'en un unique proton. Et tous les autres éléments en seraient complètement modifiés. Les étoiles n'existent que grâce aux noyaux qui fusionnent en leur cœur. Avec ces bouleversements de la physique, plus d'étoiles. L'intensité de la force gravitationnelle y joue également un rôle important. L'écrasante densité de la matière au cœur d'une étoile entretient son fourneau nucléaire à l'origine de l'éclat de l'astre. Si la gravitation était légèrement plus intense, le cœur de l'étoile en serait d'autant plus attractif et provoquerait une accélération du rythme des réactions de fusion nucléaire. Et tout comme une torche bien brillante brûle son carburant plus vite que ne se consume une modeste bougie, si le rythme des réactions nucléaires devait s'accélérer, alors des étoiles comme notre Soleil brûleraient beaucoup plus vite. La formation de la vie telle que nous la connaissons serait alors complètement remise en question. A l'inverse, si la gravitation était un point moins intense, la matière se disloquerait, pas d'étoiles, pas de galaxies. Est-il nécessaire d'insister ? Notre univers est tel qu'il est car la matière et ses interactions ont les propriétés qu'elles ont. Mais existe-t-il seulement une explication scientifique à la question « Pourquoi ces propriétés ?» Et voilà le début de ce livre sur l'univers élégant qui va nous parler de la théorie des cordes. Voilà, c'était un extrait en lecture de Brian Greene, L'univers élégant. C'est un livre que vous pouvez retrouver bien sûr à la médiathèque et là en fond sonore, on écoute Vol de nuit, c'est le titre d'un morceau de Hadouk Trio. Jean-Charles de m'avoir fait cette compilation. Donc là c'était Hadouk Trio Vol de nuit. Ben, je propose qu'on continue avec Angus Stone, le titre suivant, ça s'appelle River Love, pour la simple raison qu'il y a encore des petits soucis techniques, j'ai un CD qui est bloqué dans une platine. Et puis ma foi, ben, ça nous permet de découvrir ensemble ce petit cadeau. Merci Jean-Charles pour cette compile. Donc je redis, ça c'est Angus Stone River Love.
Oh,
Patchworld en direct sur les ondes de Radio Canu. Dans quelques instants, c'est Lilith Martine et les autres. J'ai quelques infos à vous transmettre, ne quittez pas. Juste avant, c'était une compo perso, s'appelle La Chute, et sera peut-être bientôt sur un album si j'ai les budgets. Justement, puisqu'on est avec Lilith Martine et les autres, justement, je reçois une personne qui s'occupe de cette émission. C'est Élise Bonnard qui vient nous présenter ses poèmes. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, donc ça peut intéresser bon nombre de personnes. C'est le sexe extraordinaire. Élise Bonnard, provocation en duel. Can't tell you the les petits bons plans de la semaine, c'est Emmaüs, rue de Créqui. Si vous cherchez des trucs pas trop chers, il y en a un qui vient de s'ouvrir aussi à Gratte-Ciel et à un bric-à-brac à Paris. Voilà, ils ont même un Emmaüs. Et c'est vrai que des fois, on trouve des plans genre, moi, j'ai besoin de crayons à papier ou même de vinyle. Eh ben, on trouve quand même quelques trucs. Alors, un cabaret chanson ce soir, vendredi 1er avril à 18h30, c'est la salle du Hamel à l'École nationale de musique. Avec Fanny Vérax, le voyage d'Aédé, les cours d'interprétation, accompagnement, Joël Clément. Il me semble que j'ai autre chose à vous dire. C'est pas grave, je vous le dirai plus tard. Moi ce soir je suis aussi en concert. Voilà, vous pouvez venir me voir gratuitement au Craspec Music avec un slam et la musique électronique. Voilà, vous aimez la musique électronique et le slam, ou vous pouvez venir aussi vous foutre de ma gueule, c'est entrée libre, c'est au Craspec. C'est mon premier, hein, donc. Si je me mange pas. Ah oui, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, le mercredi 6 avril aussi, c'est une soirée chanson, et cette fois c'est à tout bout de champ. Mercredi 6 avril à 20h30, et c'est aussi entrée libre. Allez, je vous quitte là, j'ai certainement oublié des infos, mais c'est pas grave, c'est pour la semaine prochaine. Je vous embrasse, et puis bon, bah allez pêcher aujourd'hui, hein, s'il y a plein de poissons, il paraît. Et n'oubliez pas, ventre affamé, point d'oreille. Merci.